C'est mon village, Marseille. C'est chez moi, c'est mon village. Hein. Et moi, je sais qu'à Marseille, il y avait au moins 20 000 personnes qui touchaient à la CAM. Et parmi ces 20 000 personnes, il y avait 7 ou 8 000 qui étaient, entre guillemets, parrains de la CAM, qui expédiaient des quantités industrielles.
Marseille, l'héroïne, des parrains et de l'argent, beaucoup d'argent. Un portrait bien éloigné de l'image d'une ville balnéaire au patrimoine historique et culturel peu commun. Celui qu'on entend ici sait très bien de quoi il parle. Son nom, c'est Milou Diaz. Il a l'accent chantant de Marseille, où il habite encore aujourd'hui.
Moi, je peux te parler de 1000 tonnes, entre 58 et 73. 1000 tonnes, facilement. Faut pas que tu sois secoué par les quantités, hein.
Ce qu'il nous raconte remonte à quelques décennies à peine dans sa ville, qui était considérée comme l'épicentre du plus grand trafic de drogue international jamais réalisé jusqu'alors.
C'est d'ailleurs pour ça que la French Connection, ça n'a pas été une histoire de gamin, quoi. C'est un truc qui a duré 30 ans. En 30 ans, il en arrive des marchandises.
French Connection. Marseille, Montréal, New York. Avec Stéphane Berthomet. Premier épisode.
J'ai connu la ville de Marseille bien après la période dont me parle Milou. Marseille, pour moi, c'est, d'une certaine façon, les tout débuts de ma carrière de policier. J'y ai passé presque une année, alors que j'étais un jeune policier auxiliaire qui avait réussi son concours d'inspecteur et attendait d'intégrer l'école de police proche de Paris. J'y suis revenu plus tard, sur la fin des années 90, alors que j'étais dans la lutte antiterroriste. Nous y avons mené différentes missions et j'ai retrouvé cette ville telle que je l'avais laissée. Tous ceux et celles qui ont été au moins une fois à Marseille se souviennent de son ambiance unique, qu'on adore ou qu'on déteste. Marseille, dont le port est l'un des plus grands lieux de transit européen depuis sa création par les Grecs quelques 600 ans avant Jésus-Christ, est une ville sans compromis. On y trouve encore aujourd'hui des personnalités qui sont comme elle, surprenantes, flamboyantes, déroutantes, fantasques et parfois dangereuses. Milou Diaz fait partie de l'histoire de cette ville et on pourrait même dire qu'il fait aussi partie d'un des plus grands mythes qu'elle a créé autour d'elle, celui de la French Connection.
Alors moi, je viens d'une famille de voyous. Nous étions tous voyous. Et à l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à être voleur. J'ai commencé à faire les braquages, j'avais 15-16 ans. Et inévitablement, je suis rentré dans la CAM. J'ai commencé à plonger dans les labos, à faire la cuisine. La vraie cuisine, les omelettes et les salades de tomates. Pour faire bouffer les chimistes. Et donc, il ne fallait pas allumer le feu d'une manière parce qu'il y avait un acide qui s'appelle l'acétone. Et l'acétone, babam, c'est comme une bombe. Ça risque de faire exploser le labo. Après, je suis monté en grade pour vider les poubelles. Parce que quand les flics ils passent, ils regardent les poubelles. Et s'ils voient trop de bouteilles de Vittel en plastique ou de choses, là, il peut y avoir danger. Donc, il y a un mec exprès pour vider les poubelles.
Et chez les voyous, si on ne commet pas d'erreur au tout début, on peut rapidement gravir les échelons.
Bon, et après, j'ai monté mon propre réseau. On parle de 67, 68. J'ai donc été 23 fois en Turquie, moi. J'ai ramené de la morphine base par tous les moyens que je pouvais créer, penser. De 67 à 77, voilà, pendant 10 ans.
Comme on dit dans le milieu criminel et policier, Milou n'est pas un demi-sel. Il a été un joueur important dans l'histoire de la French. Il a passé 50 années dans le monde criminel dont il s'est retiré après avoir été en prison durant 13 années. Pour ma part, j'ai été officier de police en France assez longtemps pour que lui et moi partagions certaines références communes sur un monde dans lequel la barrière entre flics et voyous est souvent plus mince que ne le croient la plupart des gens.
Je ne te dirai pas toute la vérité, mais tout ce que je vais te dire, c'est la vérité.
Je l'ai entendu quelques fois, celle-là.
Tandis que j'ai mis fin à ma carrière pour immigrer au Québec, Milou, qui est né dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille, est resté dans sa ville natale. Avec lucidité et sans nostalgie, il se souvient de son parcours au sein des réseaux qui ont contribué, en quelques années à peine, à mettre en place le plus important et le plus massif des trafics d'héroïne jamais réalisés entre la France et les États-Unis.
Je vais au-devant de ces gens. Je suis simplement quelqu'un qui a quelque chose à leur vendre. C'est pas comme les braquages. Le business, c'est du commerce.
Impliqué dans l'achat de morphine base en Turquie et dans les pays du pourtour méditerranéen, il a connu tous les rouages du système mis en place à l'époque, du tout début des filières jusqu'à la livraison finale de l'héroïne. Une entreprise risquée, mais très lucrative.
On va voir, par exemple, ce qu'on appelle un non-ronflant. On leur dit, voilà, moi j'ai 120 kg de morphine base, elle est à 74%. Je sais que s'il y a des bons chimistes, moi je la paye 3000 francs à l'époque. Toi, tu me proposes de me la payer 1,2 million.
Des montants qui donnent le vertige quand on les multiplie par les quantités exportées.
Le kilo d'héroïne te revient à 750 euros. Ici, tu le revends à peu près 1800 euros à Marseille. Donc, tu gagnes 1000 euros par kilo. Maintenant, si tu montes à Paris, tu le vends 2000 euros. Si tu le montes en Hollande, tu le vends 2500 euros. J'ai eu vendu 4 kilos à Miami, 160 000 dollars le kilo.
Fontaine d'argent. C'est ainsi qu'on parlait du trafic de drogue à Marseille dans ces années-là, tant ses affaires étaient rentables. Rentables au point de faire tourner les têtes.
Tu prenais un taxi à l'époque, tu laissais l'équivalent de 100 dollars pour traverser la rue. Même moi, je suis parti en couille, carrément, toi, en live.
Une fontaine d'argent qui ruisselait vers d'honnêtes commerçants qui bénéficiaient des largesses des nouveaux riches de la French.
Je ne vais pas caricaturer, hein, mais certains corps de métier étaient, disons, contents que ce business prolifère. Tout le monde était mouillé, les coiffeurs étaient mouillés, les marchands d'habits, les taxis, les bars, les boîtes, tout ça et tout, ça marchait à plein tube.
Le milieu criminel n'a pas tardé en effet à se rendre compte que le trafic d'héroïne n'était non seulement pas plus risqué que les autres formes de trafic, mais qu'en plus il pouvait vous rendre riche à millions en quelques semaines. Une richesse qui pouvait mener certaines personnes à prendre des risques démesurés, dans un milieu où la moindre erreur pouvait souvent conduire à finir sa vie dans le coffre d'une voiture plongée dans le port de Marseille.
Moi, je connais un mec, je ne vais pas dire son nom, parce que sinon, je dis son nom, je meurs, on me tue, mais je le sais de la vérité, quoi. Je le sais vrai. Ce mec, il était multi-milliardaire. Il ne savait pas l'argent qu'il est. Il avait un hôtel particulier à Paris, il rentrait avec la voiture, il prenait l'ascenseur, il était dans la maison, un des plus grands parrains du monde. Bon, de la drogue. Le monde a essayé de l'attaquer. Les Américains ont essayé de l'attaquer. Ils ont tendu 50 pièges, ils n'ont jamais pu le faire marron. Cet argent, il a été réinvesti dans des affaires saines. Ils ont des plages privées, ils ont des... Ça va, quoi. Tout va bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et il y a des fortunes colossales, colossales, qui viennent de la French Connection.
Ce sont ces sommes pharaoniques, ainsi que le nombre de participants à ces réseaux et les quantités exportées qui ont contribué, au fil des années, à créer une véritable mythologie de la French Connection. Mais derrière les récits de frics, de voyous et de flics racontés depuis plus de 50 ans au sujet de la French, des pans entiers de l'histoire de ce gigantesque trafic, ainsi que des acteurs importants, restent méconnus. Comme la plupart des policiers de ma génération, je connaissais en partie l'histoire de la French. Du moins, c'est ce que je croyais, avant de découvrir ce qui se cachait derrière le volet québécois de cette histoire.
Depuis le début du siècle, l'usage des stupéfiants s'est étendu à toute l'Europe. Il a acquis, dans les pays neufs d'Amérique, des adeptes fervents.
On situe généralement les grandes années de la French entre 1950 et 1970, mais en réalité, c'est une histoire qui a commencé bien avant ça. Dans les années 20-30, le continent américain est marqué par la prohibition de l'alcool, dont l'un des effets le plus connu sera de contribuer au développement de la contrebande en Amérique du Nord.
Si t'es installé, là, on va rentrer dans le vif du sujet.
Oui.
On va commencer par le commencement,
okay, parfait.
Le passé de contrebande du Québec, les trafics d'alcool, etc.
En prohibant le commerce de l'alcool, les organisations criminelles d'Amérique, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Asie, du Québec, du Canada, se sont tous rendus compte qu'il y avait un marché extraordinaire.
Une histoire que connaît bien Jean-Pierre Charbonneau, qui a été journaliste pendant plusieurs décennies au Québec et qui a écrit un livre intitulé « La filière canadienne ». C'est un ouvrage de référence sur la criminalité en Amérique du Nord.
D'où au Québec, contrairement aux États-Unis, les gens ont tenté de faire de la prohibition ici, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, le whisky, les bières, toutes sortes d'alcool ont été produits au Québec et vendus illégalement aux États-Unis à travers tout un réseau de passeurs. Donc, on se retrouvait dans les années 20 et dans les années 30 à avoir des gens qui étaient impliqués dans le trafic et la contrebande d'alcool, puis en même temps dans le trafic et la contrebande de drogue illicite.
J'ai appelé l'auteur, documentariste et économiste de formation, Thierry Colombier, qui a beaucoup étudié et documenté cette période.
Alors effectivement, il existait un marché, on va dire plutôt du toxique. En premier lieu, évidemment, l'alcool. Et on voit aussi des fumeries d'opium aux États-Unis qui sont assez importantes. Il existe aussi une demande en cocaïne, largement détournée de l'industrie pharmaceutique. Donc, cette période de l'après-première guerre mondiale est tout à fait favorable à l'expansion, en tout cas, des drogues, et notamment de l'héroïne.
Dès le début des années 30, les autorités policières reconnaissent que le Québec est l'une des principales portes d'entrée de la drogue au Canada en raison des ports de mer de Montréal et de la ville de Québec. Et avec les trafics, vient la corruption.
Au début du siècle, jusqu'au début des années 60, la corruption était généralisée. Le jeu était très populaire, était déjà contrôlé par des organisations criminelles puissantes. La prostitution était aussi au cœur des activités criminelles. Montréal était une ville ouverte incroyable. Il y a eu plusieurs enquêtes publiques sur la police et la politique municipale et québécoise.
Un exemple parmi d'autres. En 1932, le chef de la brigade des stupéfiants de la police de Montréal est arrêté. Il avait vendu de l'opium et de l'héroïne à un agent double de la gendarmerie royale du Canada. C'est dans ce contexte que l'on découvre l'existence des premiers réseaux, ceux dont me parle Thierry Colombier.
Première grande opération qui a été réalisée par les autorités canadiennes, c'est l'affaire de l'Orient Express, donc en 1936-1937, où on voit déjà tout un réseau, un maillage international qui permet d'approvisionner le marché nord-américain, en premier lieu le marché canadien, mais surtout le marché des États-Unis, avec des acteurs du trafic qui sont d'un côté des Corses ou des Marseillais, ce qu'on appelle des Corso-Marseillais, et de l'autre côté leurs clients qui sont les hommes de Cosa Nostra.
Avant la Seconde Guerre mondiale, les bases sont posées et la Cosa Nostra, la mafia sicilienne, dispose déjà d'un réseau reliant Marseille, Montréal et New York.
Montréal est cette plaque tournante. Du Moyen-Orient, l'opium illégal est transformé en morphine base, en héroïne pure, et de Marseille, la plupart du temps, traverse ses frontières. C'est beaucoup plus facile de passer ici pour aller à New York que de passer de l'Europe à New York directement.
Ce sera là le véritable début de ce qui sera appelé beaucoup plus tard la French Connection. Et comme toute aventure, la French a ses pionniers, François Spirito et Paul Bonaventure Carbone, en sont parmi les plus connus.
En 1936 ou début 1937, un certain D'Agostino, qui est associé à Carbone et Spirito, qui domine à l'époque la pègre marseillaise, organise la première grande filière d'héroïne entre la France et l'Amérique du Nord, dite de l'Orient Express. L'héroïne est transformée dans des laboratoires installés dans la région parisienne et non pas marseillaise.
Et c'est dès ce moment-là que les chimistes français se positionnent au meilleur de ce qui se fait alors en qualité d'héroïne produite. Mais arrive la Seconde Guerre mondiale. Carbone et Spirito choisissent le camp de l'occupant allemand. Le premier mourra dans un accident durant la guerre et Spirito rejoindra le Canada après avoir été condamné à mort en 1944.
Le monde interlope français était divisé en deux clans. Il y avait ceux qui avaient décidé de collaborer avec les nazis, puis avec la Gestapo, puis les occupants allemands en France. Puis il y avait ceux, au contraire, qui s'étaient rangés du côté de la résistance. Et ceux qui étaient dans la résistance se sont retrouvés à être mieux positionnés pour eux reprendre plus ouvertement leurs activités en France sans être inquiétés par les services de police.
De suite après la guerre, on a un ensemble très important et très soudé qu'on appelle des compagnons de la libération. Donc ces amitiés du maquis que ce soit ceux qui vont prendre les rênes du pouvoir politique en France ou ceux qui vont devenir des parrains du milieu français, quelquefois ont des dettes, ce qu'on appelle à la vie et à la mort.
La guerre a eu pour conséquence de diviser en deux camps le monde criminel, avec les collabos d'un côté qui fuiront à l'étranger, et de l'autre, les résistants qui pourront reprendre leurs activités en bénéficiant de nouveaux soutiens créés dans le maquis. Cette scission est importante car elle posera les bases d'une certaine réorganisation des rôles, alors même que l'après-guerre est une période d'opportunité sans précédent pour le monde du crime. En particulier, parce que c'est à ce moment-là que le trafic maritime reprend et que le trafic aérien et routier se développe de façon exponentielle.
Il faut rappeler que l'espace colonial français est quasi planétaire. De Madagascar jusque en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord, en Amérique centrale avec les Antilles évidemment, les anciennetés culturelles, à savoir l'Acadie et donc le Canada en fait partie, et l'Indochine. Ces équipes, comme on les appelle dans le milieu français, vont développer dans un premier temps de la contrebande d'alcool et de tabac, et surtout ce qu'on va appeler le trafic des blanches, le large marché mondial de la prostitution.
Ce sont certains de ces réseaux, nés pour la contrebande d'alcool et les trafics d'êtres humains, qui seront après-guerre utilisés entre autres pour le trafic d'héroïne. Car le marché de la drogue s'annonce aussi lucratif que peu risqué pour les criminels français.
La lutte contre le trafic de drogue en France n'était pas du tout une priorité. Le code pénal réprimait de 5 ans de prison un trafic international de drogue. Et les amendes étaient absolument ridicules.
C'est dans ce contexte qu'un événement fondateur très particulier de l'après-guerre viendra sceller l'avenir de la ville de Marseille.
Mais revenons-en aux travailleurs français et à leurs revendications.
En 1950, une grève bloque tout le trafic portuaire, alors essentiel à l'économie française et à l'effort de guerre en Indochine. Le gouvernement souhaite briser ce mouvement rapidement.
Allô, allô, ici le port de Marseille.
On fait alors appel aux membres d'une famille déjà largement impliquée dans les affaires criminelles à Marseille.
Un étrange personnage, caïd du milieu et apparemment arbitre de la pègre, nommé Mémé Guérini.
Antoine Guérini et son frère Barthélémy, dit Mémé Guérini, dominent le milieu marseillais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mémé est proche de certains hommes politiques. La famille Guérini a fédéré le milieu criminel marseillais en dirigeant d'une main de fer l'univers du jeu, des boîtes de nuit et l'immobilier de la région.
La semaine sociale écoulée a été entièrement dominée par l'ordre de grève générale lancé mardi dernier par la CGT Force Ouvrière.
Le coup de main donné aux autorités par les Guérini pour briser la grève fait non seulement l'affaire du gouvernement français, mais aussi celle de l'un de leurs partenaires d'affaires, dont le nom est déjà connu dans tout le milieu interlope, Lucky Luciano. Tout comme les autorités, la mafia a elle aussi intérêt à ce que les activités reprennent au port de Marseille, qui servait de lieu de transit au trafic de toutes sortes. Et à l'époque, Lucky Luciano est déjà incontournable.
Pas une seule affaire de gangster où Lucky Luciano ne fut pas mêlé directement ou indirectement. En 1936, pourtant, il est arrêté, jugé, condamné à 30 ans d'emprisonnement. En 1947, soit 10 ans après, il quitte les prisons américaines avec des félicitations presque officielles des autorités américaines. Il avait utilisé son réseau de la pègre pour fournir pendant la guerre aux Américains des renseignements militaires de tout premier ordre.
Ce sont donc les Américains eux-mêmes qui ont permis à Luciano de retrouver ses activités criminelles. Grâce à la mise en place d'une organisation avec des partenaires aussi influents que Lucky Luciano, le crime a désormais la main mise sur l'un des points d'entrée les plus importants de France, le port de Marseille.
À notre droite, vous pouvez voir toute l'activité que déploie le port de Marseille avec ses centaines de grues et ses bateaux innombrables, et puis la ville qui se dort au soleil car aujourd'hui vraiment le printemps est né.
Et de l'autre côté de l'Atlantique, à New York en particulier, c'est l'âge d'or de la mafia.
On l'avait surnommé Lucky le Vénard parce que, ayant quitté très tôt sa Sicile natale sans un sou, il avait rapidement découvert et conquis à sa manière l'Amérique.
Aux côtés d'Al Capone, un des grands durs de l'époque, pendant 20 ans, il participa à tous les grands coups, comme on dit.
La désormais célèbre Cosa Nostra sicilienne est bien installée sur le territoire américain. Lucky Luciano, après s'être arrogé le titre de capo di tutti capi, c'est-à-dire le chef des 5 familles de la mafia à New York, a créé une assemblée collégiale nommée Commission, chargée de régler les affaires courantes au sein de l'organisation. Et non loin de là, plusieurs affaires importantes témoignent de la vitalité du milieu criminel canadien. Jean-Pierre Charbonneau, qui est l'un des rares à avoir souligné le rôle des Québécois dans la French Connection, retrace pour nous cette époque bénie pour les criminels nord-américains.
C'est le début de l'implication non seulement de la cellule montréalaise de la mafia nord-américaine, mais c'est aussi le début de la filière française. C'était les Français, donc des gens du monde interlope français, en relation avec les francophones de Montréal, mais aussi ailleurs. Donc, cette nouvelle réalité du trafic international d'héroïne, parce que l'héroïne était devenue à ce moment-là le produit qui était le plus rémunérateur.
Mais surtout, Charbonneau évoque la montée en puissance d'une famille liée au crime et au trafic de drogue au Canada, et plus particulièrement à Montréal, les Cotroni.
La famille Cotroni, elle fait vraiment fortune à la sortie de la guerre, dès les années 40.
Oui, puis même un peu pendant, parce que la famille Cotroni était déjà très impliquée, elle et ses acolytes, dans la prostitution, dans le jeu. En fait, il y avait Vic, Giuseppe, Pepe, il y avait Frank... Et il y avait Michel, puis je pense que la numéro 2 de la famille, c'était Palmina Cotroni, qui n'était pas un membre, mais qui avait pas mal d'influence autour de ses frères. Donc, pendant la guerre, les frères Cotroni, et en particulier Vic, qui était le plus important, avaient pris du galon. C'est eux qui ont pris le haut du pavé de la pègre locale.
À Montréal, c'est la grande époque des cabarets et du music-hall. Et grâce à la fortune faite en accumulant les biens immobiliers et les investissements dans des bars et des restaurants, la famille Cotroni commence à tenir une place considérable dans l'écosystème criminel québécois et même canadien. Vic est le parrain, la vitrine de la famille, qui succède alors à un système mafieux peu organisé dans lequel les Juifs et les Irlandais côtoient les Italiens. Le clan Cotroni est propriétaire du fameux cabaret Le Faisan Doré, où se produisent les plus grandes stars françaises comme Charles Aznavour, Tino Rossi, Charles Trenet, Georges Guettari, Luis Mariano et quelques stars québécoises comme Colette Bonheur ou Denise Filiatro et Monique Lérac. Mais l'endroit est aussi le haut lieu de la mafia montréalaise.
Les gens ne pouvaient pas ignorer qui était le patron du Faisan Doré, c'était Vic Cotroni. Les gens ne pouvaient pas ignorer qu'il était un des personnages les plus importants de la pègre à Montréal. Ça ne veut pas dire que les gens qui étaient des clients ou les artistes qui étaient engagés par le Faisan Doré étaient des complices. Mais en même temps, c'était une zone trouble ou une zone grise dans laquelle les gens naviguaient. Et puis, il y avait beaucoup d'aveuglement volontaire parce que, dans le fond, quand tu es un artiste, tu veux gagner ta vie. Puis que le Faisan Doré, c'est l'endroit comme artiste francophone pour débuter ta carrière ou y donner un nouvel élan.
Vic Cotroni, l'aîné de la famille, est associé avec deux frères marseillais qui disposent d'un réseau de contacts très important dans le sud de la France.
Un certain nombre de caïds français sont arrivés à Montréal puis assez rapidement ont développé des affaires ou des fronts légaux. Et ils les opéraient entre Français ou les opéraient entre Français puis Québécois, là, tu sais.
Vic Cotroni et sa famille sont aussi très liés à la mafia sicilienne new-yorkaise, la Cosa Nostra, à travers l'une de ses principales familles, les Bonanno. En 1953, Carmine Galante, qui est le représentant de la famille Bonanno à New York, vient organiser les affaires de la Cosa Nostra au Québec. Vic Cotroni est nommé Capo de China, chef de faction de la famille Bonanno.
Quand tu regardes la hiérarchie de la famille, Bonanno, c'était le parrain. Et puis après ça, tu as des capitaines. Les capitaines à Montréal, c'était Vic Cotroni, Pepe Cotroni, et quelques autres sont devenus des soldats de la famille Bonanno.
Une position qui va installer pendant plusieurs décennies les frères Giuseppe, Frank et bien sûr Vic Cotroni comme les leaders incontestés du crime organisé montréalais. Avec Marseille aux mains des Guérini, les chefs de clan de la Cosa Nostra qui tiennent les rênes de la grande criminalité aux États-Unis sous la férule de Lucky Luciano et la famille Cotroni au Canada, se dessine le portrait des grands acteurs de la French Connection. Et pendant que la famille Cotroni continue d'étendre son empire, à Marseille, l'expertise des chimistes qui transforment l'opium en héroïne d'une grande qualité fait de la ville phocéenne l'épicentre d'un trafic de drogue qui ne tardera pas à prendre une ampleur internationale. Et il aura suffi pour ça de quelques hommes audacieux et aventureux comme Milou Diaz.
Attention, je ne suis pas seul. Hein. Je faisais rentrer cette marchandise dans une équipe. On nous était 7 ou 8. Et à un moment donné, j'étais à cheval sur 3 équipes.
Dans le jargon policier, on appelle ça des équipes à tiroirs. Certains font partie de plusieurs groupes et les alliances se font et se défont en fonction des intérêts et des besoins. Dans ce contexte, des hommes comme Milou sont parvenus en quelques mois à mettre en place une importation massive vers Marseille de morphine base qui servait à fabriquer l'héroïne.
Il y avait 2 bateaux blancs, c'était des bateaux de touristes. Un, il s'appelait Lac Denise, et l'autre, il s'appelait le Cara Denise. Ils faisaient le tour de la Méditerranée, Naples, Barcelone, Marseille, voilà. Donc, j'ai beaucoup reçu de marchandises turques à travers ces bateaux blancs-là.
Et l'ombre de la mafia veille sur le trafic.
Le plus facile pour nous, c'était Naples, parce que Naples, nous étions chez nous à Naples. Parce que j'avais des amis dans la Camorra.
La Camorra, c'est l'une des plus anciennes organisations criminelles italiennes. C'est la mafia napolitaine dont on dit qu'elle a compté plus de 7000 membres rien que dans la région qui entoure sa ville de naissance, Naples.
C'était des amis d'enfance de la Belle de Mai, des Marseillais qui faisaient le trafic de cigarettes et ils étaient avec les gens de la Camorra. Donc, ils m'avaient assuré que pour débarquer des marchandises de ces deux bateaux blancs, c'était de la rigolade.
Mais les associés de ces réseaux ne sont pas uniquement corses, italiens ou marseillais. Et Milou s'est tiré parti de ses contacts.
Moi, pour ce qui est de rentrer en contact avec les Turcs, je me suis servi des Arméniens. Dans mon quartier, Saint-Julien, j'avais repéré le mec qui voulait se mouiller avec moi pour partir en Turquie et me faire connaître des gens du milieu de la drogue.
Ce système reposait évidemment sur l'importation de morphine base, mais surtout sur les laboratoires de transformation de cette base en une héroïne pure à 98%. Des laboratoires qui ont fait la réputation internationale de Marseille en matière de chimie.
Le labo, ça restait pas longtemps, un labo. Ça restait maximum 7-8 mois. On déménageait souvent. Et on allait beaucoup dans des endroits où il y avait des arbres. Parce que c'est pour absorber les assises, il faut beaucoup de chlorophylle, il faut beaucoup d'arbres, du verre. Et on louait toujours une villa pourrie, tu sais, une villa de vieux, là, une villa... Et dans des quartiers tranquilles, hein, toujours. Hein. Voilà, toujours.
Le labo, c'est l'élément le plus important du trafic. Et tout est fait pour le protéger.
Tu prenais un couple de vieux, des retraités, ils louaient la villa. Ils savaient où ils mettaient les pieds, les vieux. Hein. Mais ils avaient un discours préparé. On leur disait, par exemple, si demain ça explose, que la police nous arrête, vous dites qu'on vous a forcé à faire ça. Qu'on vous a dit, on va venir pour faire de l'or ou pour faire n'importe quoi, mais pas la drogue. Et la nuit, le dimanche matin à 6h, on rentrait les produits. On rentrait la drogue, la pompe à vide, le Büchner, le concasseur, les plateaux pour faire sécher comme ça l'héroïne.
Un point qu'il faut souligner, c'est l'extrême dangerosité et la complexité du processus réalisé de façon artisanale. On touche là à l'une des particularités de la French, à savoir la qualité incroyable de l'héroïne fabriquée dans des conditions extrêmes par les labos marseillais.
Mais moi, je ne touche pas parce que je suis trop nerveux. Tu sais que ça, là, l'héroïne, un chimiste de métier, des fois, il ne sait pas le faire. Il faut avoir le coup de main. Tu as 5 opérations. La dernière opération, c'est le chlorhydrate. Ce chlorhydrate, si tu le rates, tu perds tout. C'est-à-dire que des fois, tu as l'équivalent de 5 ou 6 millions d'euros dans des bacs de l'eau, enfin du liquide. Il faut que ça se solidifie. Et après, ça fait des cailloux. Et après, tu le mets dans le concasseur et ça fait de la poudre. Voilà. Et après, tu fais ton test. C'est-à-dire que tu le mets dans une pipette, ça le brûle, et ça explose à 232, 234 degrés. Et là, elle est bonne pour les Américains. Si elle ne fait pas ça, les Américains, ils disent, mais nous, on n'a pas besoin de la payer si cher. On a des Thaïlandais, des Birmans, même en Afghanistan, il y en a de la marchandise. Hein. Mais ils privilégient cette Marseillaise par rapport à cette qualité, qualité supérieure. Et ils se faisaient un honneur d'être les meilleurs du monde.
Les hommes, le produit, les laboratoires, les réseaux et les acheteurs, tout est en place pour que s'installe le plus grand trafic de drogue de toute l'histoire du monde criminel. Des centaines et des centaines de kilos d'héroïne vont alors transiter vers les États-Unis, directement, mais aussi via Montréal. Un marché que vont littéralement inonder les trafiquants français.
À New York, ça consommait à tout va, à Harlem, tout ça. Au Canada, ça consommait aussi. Hein. Ils n'aiment pas que le sirop d'érable au Canada. Et ils aiment aussi ça. C'est bon. Hein. De partout, ça consommait. Et il fallait approvisionner l'Amérique. L'Amérique. Toute l'Amérique.
À suivre dans le prochain épisode.
Les rivards deviennent une façon pour les Français d'acheminer par Montréal. Et lui-même fait du trafic, c'est-à-dire que lui-même va à Marseille et revient dans ses valises avec des kilos et des kilos qui valent en dollars d'aujourd'hui des millions de dollars.
Et à un moment donné, tellement qu'ils sont devenus puissants, ils ont traité directement avec les gens de Cuba de la mafia.
Il y a des sirènes de police, et voilà tous les flics américains qui nous entourent. Il y a des calibres, voilà, toutes les portières. Et on a été fait comme des rats.
French Connection, Marseille, Montréal, New York, avec Stéphane Berthomet. Réalisé par Cédric Chabuel. Design sonore par Création Sonore, Radio France. Une coproduction Radio-Canada Audio et France Culture.